Clochards, exclus, nouveaux pauvres, marginaux, mendiants, qui sont-ils ces êtres étranges au visage ravagé? Ces exilés qui nous côtoient, qui dérangent notre regard et suscitent nos fantasmes? Des fainéants, des réfractaires ou des philosophes, révoltés, anarchistes, intellectuels parfois, faux mendiants souvent? Les mythes ont la vie dure, on parle de choix, on cherche du côté de la volonté, on se construit toute une métaphysique du dynamisme et du découragement, si bien qu'on en vient doucement, et c'était le but, à banaliser l'horreur et à annuler l'angoisse. Patrick Declercq est ce soir notre invité à l'occasion de l'adaptation au théâtre en ce moment même à Paris au Bouffes du Nord de son texte intitulé « Les naufragés ». Par Emmanuel Mérieux. Et en seconde partie de cette émission, il sera rejoint par François Cotterel qui interprète le rôle de Patrick Declercq au Bouffes du Nord. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et avec Johnny Cash.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch, he called out to me, "Don't ask for so much." And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, "Why not ask for more?" Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way free.
Rester libre, on peut dire que c'est tout un programme qu'on vient d'entendre grâce à cette merveilleuse chanson de Johnny Cash, mais on peut dire que c'est votre programme aussi, à vous depuis extrêmement longtemps, Patrick de Clercq. Vous êtes un intellectuel engagé, vous êtes un anthropologue qui vous insinuez dans les terrains et qui vivait les situations au lieu d'en faire des traités théoriques. Vous êtes un écrivain aussi. Vous aimez-vous vous-même ?
Jusqu'à un certain point, je suis psychanalyste. Je ne pratique plus parce que, entre autres, c'était ou pratiquer ou écrire et devenir un peintre du dimanche. Donc j'ai choisi d'écrire, j'ai choisi, c'est-à-dire que ma pulsion d'écrire a été la plus forte. Je ne suis donc plus que mon seul patient, ce qui me garde assez occupé. Est-ce que je m'aime moi-même ? Non. Je n'aime pas d'ailleurs l'humanité non plus. On y viendra, ce n'est pas mon espèce favorite, loin de là.
Vous aimez votre chienne ?
J'aime ma chienne, merci de vous en souvenir de notre dernière conversation. Elle va bien, elle est merveilleuse, elle dort dans mes bras, elle est innocente, elle ne fait pas Hiroshima, elle ne fait pas le Rwanda, elle ne fait pas Auschwitz. Elle fait ce qu'elle peut et elle donne un amour infini. Voilà, je dirais que c'est peut-être une tarte à la crème, tant pis. Plus l'humanité collective, je ne dis pas individuelle, celui-ci ou celle-là, mais plus l'humanité collective en tant qu'espèce me semble à la fois ratée, tarée et monstrueuse, plus le vivant m'émeut. Ça inclut les plantes.
D'où venez-vous, Patrick de Clercq ?
Géographiquement et héréditairement d'une famille où il y avait des Belges, des Anglais et des Français. J'ai immigré avec mes parents aux États-Unis à l'âge de 11 ans. Je suis là devenu profondément nord-américain. Et j'ai eu l'avantage de passer d'un milieu belge plutôt petit bourgeois, en ce qui concerne mes grands-parents, quand j'avais 11 ans, en Belgique, à des milieux juifs, athées, new-yorkais, intellectuels. Mon père est allé à Columbia quand j'avais 11 ans, et ça a totalement changé ma vie, heureusement. Ou sinon, je crois que probablement je conduirais un tram quelque part, à Bruxelles, que sais-je.
C'est pas si mal.
Non, c'est peut-être pas si mal, mais c'est peut-être un peu ennuyeux. Ce qui me fascinait, moi, c'était tout d'un coup de découvrir autre chose. Et à l'époque, au début des années 60, aller aux États-Unis, on sait aujourd'hui ce que sont devenus les États-Unis, bien entendu, et hélas. Mais à l'époque, on avait vraiment l'impression de passer dans un autre monde. Cette impression, c'est heureusement, en un sens, largement diminué aujourd'hui. Mais là, tout d'un coup, c'était autre chose. C'est intéressant d'ailleurs que je suis devenu tellement tellement immergé dans ce monde-là que lorsque j'ai subi une opération éveillée du cerveau, on en parlera peut-être tout à l'heure, il s'ensuit des troubles du langage, des troubles de l'expression, et en me réveillant, je ne pouvais plus parler qu'anglais, ce qui montre bien que l'anglais est devenu neurologiquement ma première langue.
Vous avez publié il y a assez peu de temps un livre qui s'intitule « New York Vertigo ». Vous avez continué à revenir aux États-Unis de manière régulière. Que faisiez-vous il y a peu de temps avec les snipers en Arizona ?
Alors, New York Vertigo, c'est devenu un livre en soi. C'était à l'origine le premier chapitre d'un livre que j'étais en train d'écrire, que je suis en train de terminer, sur mon expérience d'une école de snipers où je suis allé deux fois en Arizona. Et c'est tout, en quelque sorte, c'est différent, et en même temps, ce qui est différent est toujours la même chose. Que j'aille à Nanterre, que je me fasse ramasser par la police, que je regarde ce que vivent nos frères endommagés et blessés et méprisés, que sont les naufragés, que je raconte à la pseudo-Hamlet dans Crâne, un titre qui n'est pas là pour rien, qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup de se retrouver chirurgie éveillée. Donc on est à la fois Hamlet et Yorick en même temps, et on a son crâne qui est dans un plat quelque part, un peu plus loin. Ce sont des expériences limites. Sniper, c'est une expérience limite. Mais c'est la même quête. Ce qui m'intéresse, au fond, je suis un vieil étudiant de philo. si je suis quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les limites de l'humanité et d'essayer d'approcher des terrains qu'il est inhabituel de décrire. J'ai mis un an et demi pour me faire accepter par cette école de sniper, parce que les États-Unis gardent, après le 11 septembre, un souvenir très mitigé des étrangers qui viennent apprendre là-bas des techniques intéressantes. L'école de sniper où j'étais dans le désert d'Arizona était à quelques kilomètres d'une école d'aviation où était inscrit un des candidats terroristes du 11 septembre, qui était malheureusement tellement incompétent qu'il a raté ses études, heureusement. Moi, en revanche, j'ai la douteuse fierté d'avoir été assez bon élève et donc d'avoir mon diplôme de sniper avancé et instructeur.
Qu'est-ce que cela signifie ?
C'est une école du meurtre à distance, du meurtre froid. On est testé. À la fin, l'examen final, on tire à 1200 yards, c'est-à-dire 1,1 km, sur un morceau de métal en forme humaine, et on tire en fonction de ce que l'instructeur vous demande de viser, c'est-à-dire un foie, un cœur, une tête. L'idée est de toucher ses objectifs le plus rapidement possible, avec le moins de balles possible. C'est très étrange, et on travaille là de 6h du matin à 4h de l'après-midi sans s'arrêter. C'est physique, mais ce n'est pas seulement des amateurs, plus ou moins psychopathiques, qui sont là, ce sont des gens aussi qui, ces écoles sous-traitent à l'armée, sous-traitent à des gens qui travaillent dans des organismes privés qui assurent la sécurité de l'ambassade des États-Unis en Irak, par exemple. Il y en avait plusieurs qui étaient là, qui avaient été Marines, qui avaient maintenant une trentaine, quarantaine d'années, qui travaillaient, et donc c'était des gens en quelque sorte très sérieux, quoique souvent psychiquement intéressants.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire psychopathique. Le problème de ces techniques de sniper, alors ça m'était assez facile parce que comme il se fait que j'avais été aux États-Unis plus jeune, je savais tirer au fusil, donc au revolver je suis très mauvais d'ailleurs, hein, mais au fusil je vaux quelque chose, et donc c'était assez facile d'acquérir ces techniques supplémentaires. Avec des armes de guerre dont le danger principal et immédiat pour soi est de s'éclater la clavicule, parce que la force du recul est telle qu'il faut être extrêmement prudent, si ce n'est pas de s'enfoncer la lunette dans l'œil. C'était intéressant, c'était tout en partage les histoires idiotes avec les camarades, tout le monde a un surnom, comme dans les films militaires, et donc moi mon surnom, comme j'étais psychanalyste et qu'il savait, c'était Doc, et il y avait avec moi, entre autres dans un des deux cours, un infirmier des Marines, un medic comme on dit, qu'on voit dans les films sur le Vietnam, etc., qui avait une tête de plus que moi, et lui, comme lui n'était que medic, il l'appelait Baby Doc, et il devait faire à peu près 130 kilos. Cela dit, comme vous voyez, je ne suis pas anorexique non plus. Donc, c'était une ambiance de bon garçon, en un sens, et en même temps, une école de l'assassinat froid, accompagné de toute l'excitation. Il y avait les étudiants les plus mauvais tremblaient en tirant parce qu'ils étaient dans une telle excitation que donc ils tiraient à côté, les pauvres petits. Donc voilà, je décris tout cela.
Docteur Doc, on va vous appeler ainsi, Patrick Declercq, que l'école de la mort, vous connaissez. Vous avez fait allusion à un livre stupéfiant que vous avez publié il n'y a pas si longtemps qui s'intitulait « Crâne ». Il y a des jours comme ça, ça nous arrive à toutes et à tous, en tout cas ça vous est arrivé. Vous avez appris que vous deviez passer sur le billard pour une opération de votre cerveau et que vous risquiez d'y passer. Vous avez cependant tenté l'aventure, et de cette aventure psychique et pas simplement physique et médicale, on retient que finalement, c'est la littérature qui vous tient en vie. Évidemment, il y a la compétence des médecins, et ils vous ont sorti d'affaire après cette opération extrêmement difficile. Mais sans Shakespeare et sans la lecture d'Hamlet, seriez-vous encore devant moi dans ce studio aujourd'hui ?
Je ne pense pas, et je ne pense pas pour une raison non pas sentimentale ou culturelle ou de quelconque snobisme, mais pour une raison tout à fait neurologique. La neuropsychiatre, quel lapsus, mais en même temps, oui, justement, la neurochirurgienne qui me suit depuis des années et qui, incidemment, lit mes livres, m'a expliqué une chose très simple. Elle m'a dit, heureusement que vous travaillez parce que ces tumeurs au cerveau de ce type-là, ça continue à grandir. On ne gagne jamais, on retarde, c'est tout. Mais cela continue à grandir. C'est-à-dire qu'on perd des cellules. Et on ne regagne pas ces cellules. Mais en revanche, en faisant travailler son cerveau de façon multiple, on multiplie les connexions entre cellules. Et en quelque sorte, on court devant la dégradation. Et voilà des années que je cours devant la dégradation. En écrivant, en lisant, en travaillant, je me suis remis récemment, ce qui paraît ridicule, mais c'est neurologiquement intéressant, à jouer de la flûte traversière que je n'avais pas touchée depuis 40 ans. J'en tire une satisfaction extraordinaire, parce que c'est comme avoir Jean-Sébastien Bach au téléphone, si vous voulez. Donc, la communication passe mal, mais c'est quand même Jean-Sébastien Bach. Et donc, c'est remarquable, mais on peut... Alors là, je ne suis pas en train de ventiler je ne sais quel narcissisme douteux. Je suis en train de dire très précisément que mes camarades qui se trouvent dans ce genre de situation, ils ont vraiment intérêt à faire travailler leur cerveau au maximum parce que cela multiplie les connexions entre les cellules et ça fait gagner du temps. Bien entendu, on va perdre, mais nous allons tous perdre.
Êtes-vous un vivant ou un survivant ?
Un survivant. Un survivant, et je dis dans le crâne d'ailleurs que une surprise, que profonde surprise que j'avais eue après cette expérience étrange... C'est que la philosophie est une escroquerie, au moins sur un point, c'est « memento mori », « souviens-toi que tu vas mourir ». Et je me suis aperçu que c'était faux. C'était faux parce que depuis cette expérience, je ne peux plus oublier une seconde, jamais, que je vais mourir. Et que probablement je sais de quoi je vais mourir. Et à ce moment-là, il se passe comme un étrange exil. On n'est pas tout à fait là. On ne peut plus avoir trop d'illusions. On sait que le temps passe et on ne peut jamais l'oublier. Mais ça n'est pas la normalité. J'ai donc découvert que pour avoir une vie, je dirais, de bonne qualité, eh bien, il faut peut-être savoir qu'on va mourir, mais et puis il faut pouvoir le refouler. C'est-à-dire penser à autre chose. Parce que ça, c'est la vraie vie. C'est une condition de possibilité de la vraie vie. Cette condition de possibilité, mais maintenant, impossible à atteindre. Alors, memento mori, effectivement, mais c'est être condamné à une sorte de léger exil, en quelque sorte.
Croyez-vous à la distinction âme-corps, Patrick de Clercq ?
Non, pas une nanoseconde, parce que, justement, parce que, et c'est une chance, en un sens, d'avoir découvert que, en me réveillant, j'étais hyper conscient, et je suis resté hyper conscient pendant à peu près 36 heures, j'ai refusé de dormir.
Là aussi, le goût de l'impossible.
Certainement.
Transgresser les limites.
Oui, certainement transgresser les limites. Et puis être... Moi, je suis naturellement, je dirais, assez mou et assez facile à vivre. Mais je peux réagir un peu violemment. En clair, il ne faut pas m'emmerder. Et je voulais vivre cela. Et donc j'ai refusé de dormir, j'ai fait tout pour ne pas dormir. Mais je ne savais plus parler. Très vite, j'ai parlé 2-3 minutes, puis je ne pouvais plus parler. Alors là, on se dit, mais qui suis-je ? Parce que je pouvais continuer à penser, j'ai écrit cela, j'ai décrit très précisément. La mémoire fonctionne, mais il n'y a plus de langage. On ne peut plus commander un coca. On ne sait plus comment dire coca.
On le pense, mais on ne peut pas l'énoncer.
On ne peut pas l'énoncer. Alors comment le pense-t-on ? C'est une vraie question. Parce que qu'est-ce que penser sans langage ? Et manifestement, il n'y avait plus de langage, puisque je ne pouvais littéralement plus rien dire, ni écrire. En revanche, en sortant de l'hôpital, 4 jours après, il ne fallait pas que je m'éloigne trop de l'hôpital pendant 15 jours, quand même, parce que, quand même, bon. Mais je pouvais quitter l'hôpital. Je ne pouvais rien dire d'intelligible, rien. Ma compagne est venue me chercher, je suis allé dans la voiture, j'ai mis un CD de Bach, et je pouvais chanter le refrain en allemand. Faux, comme d'habitude, mais je pouvais le chanter quand même. Mais je ne pouvais rien dire d'autre. C'est l'aliénation absolue au centre le plus profond de soi. Alors on dit, non seulement je ne suis pas maître chez moi, mais je ne sais pas qui ai-je, je ne sais pas qui est moi, et littéralement je ne sais pas où j'habite. Je suis l'épiphénomène de 115 kilos de mélange de viande avec tout de même un petit peu de graisse.
Votre cerveau a été modifié après cette opération. Pensez-vous habiter de la même façon le monde ?
Le monde dont j'en mesure l'immense fragilité, la chance aussi extraordinaire de pouvoir écrire. Je suis devenu un écrivain. Écrivain me semble un peu...
Un émissaire d'un autre monde.
Non, mais un type qui n'a pas de temps à perdre et qui s'est resserré autour de sa volonté absolument. J'ai encore des livres à écrire, j'ai la liste et je veux faire ce que je peux brutalement, je dirais, pour faire en tout cas ce que je peux. Donc, en quelque sorte, je ne suis pas là pour rigoler. Voilà, ça change un rapport profondément.
Je vous propose d'écouter la voix de Jean-Bertrand Pontalis, qui, comme vous, était psychanalyste, écrivain, mais aussi éditeur. Il va parler et comparer la psychanalyse et la littérature. C'est une archive INA du 1er mars 2010.
J'ai déplacé ou peut-être cherché en tout cas une autre voie vers quoi vers ce que je ne connais pas bien, parce que l'analyse c'est tout à fait ça, c'est aller au devant de ce qui est inconnu en soi et qui va plus ou moins se révéler, en tout cas dont on va approcher en cours d'analyse. Et avec les patients, c'est la même chose. Je le dis souvent, c'est la rencontre de deux inconnus. Quelqu'un vient me voir, je ne sais rien de lui, il n'est pas du même milieu, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même névrose que moi, il n'a pas les mêmes fantasmes, et en un sens, il ne parle pas la même langue. Et lui, c'est pareil pour moi, il ne sait rien de moi et tout. Et la rencontre entre ces deux inconnus va naître quelque chose d'inconnu. Et la littérature, enfin ma littérature, c'est un mot un peu ambitieux peut-être, un peu emphatique pour les petits livres que je fais, ça représente ça pour moi. Je ne fais jamais de plan, je ne sais pas trop où je vais aller quand je commence à écrire, et je ne veux pas parler de ce que je connais par cœur de moi, là. J'essaye que quelque chose de nouveau apparaisse, donc c'est une autre forme tout à fait différente de la psychanalyse, hein, je ne les confonds pas. Mais une autre forme de recherche, non pas d'un centre, parce que le centre est toujours introuvable, il dérobe son propre centre, il se déplace, comme vous diriez. Mais enfin, une manière d'approcher de ce que j'ignore et peut-être de pouvoir en dire quelque chose.
Vous approuvez les propos de J.B. Pontalis, Patrick Declercq, qui est... Pourquoi avez-vous arrêté l'analyse ? C'était pour écrire, avez-vous dit en ce début d'émission, mais parce que peut-être vous êtes en dialogue incessant avec vous-même.
Je suis en dialogue incessant avec moi-même. Je pense qu'il y avait un problème éthique aussi. C'est que écrire, il faut garder, pour être un analyste digne de ce nom, il faut tout de même pouvoir présenter, comme il vient de le dire, une sorte de neutralité vis-à-vis des gens qui vous font l'honneur de venir chez vous. Le type de livres que j'écris sont à l'opposé de cela. Je pourrais écrire, si j'avais écrit sur la psychanalyse, c'était autre chose, mais j'écris pas sur la psychanalyse. Et comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, je suis obligé d'écrire, si je veux écrire, sur des expériences que j'ai vécues au plus près.
Vos livres sont des traversées.
Oui, ce sont des traversées de moi-même, sauf que ce qui est en moi-même n'est intéressant que dans la mesure où il s'agit des autres. Sinon, c'est juste un
narcissique. Non, mais je veux dire par là que vous êtes un acteur engagé de la société. On reviendra tout à l'heure sur cette mise en scène par Emmanuel Mérieux au Théâtre des Bouffes du Nord de votre texte « Les naufragés ». Quand vous vous attaquez en tant que scientifique, chercheur, anthropologue, ethnologue aux naufragés, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la rue, eh bien, vous y allez corporellement. Vous allez vivre avec eux nuit et jour.
Oui, parce que sinon, ça ne... C'est sans chair, c'est sans profondeur. On blablate très vite. Je crois qu'il faut, vivre, il faut ressentir dans sa chair, vraiment. Faut y aller. Ou sinon, bon, on est dans les salons. Ce n'est pas mon affaire. C'est parfaitement légitime, mais ce n'est pas mon affaire. Donc il me faut l'expérience de la chose. Et ça, je pense que là, on est dans une, vraiment dans une contradiction vis-à-vis de la position d'analyste, telle qu'elle doit être, et la position de ce que je fais dans mon micro-laboratoire de recherche sur les limites de l'humain. Parce que ça devient trop lourd pour un éventuel analysant. Donc là, il y avait une contradiction.
Les limites de l'humain que vous recherchez depuis des décennies, Patrick de Clercq, n'est-ce pas aussi la recherche de votre propre jeu ou des multiples jeux qui constituent votre propre individualité? Et là, on en revient à Shakespeare, à votre amour fanatique pour Shakespeare et au personnage de Roi Lear. Qui peut me dire qui je suis? Se oui. demande Lear.
Oui.
Et effectivement, à la fin, il a raison de se poser la question.
Oui. Qui peut me dire, et Shakespeare en a fait plusieurs, comme ça, il y a Timon d'Athènes. À la fin, Timon d'Athènes finit comme, littéralement une épave. On est dedans, au bord de la mer, sur une plage sordide, etc. Écœuré absolument de tout. Il dit à un certain moment, Timon d'Athènes rencontre des prostituées, il s'est isolé de tout, il est pratiquement nu. Il tombe tout d'un coup sur un trésor, des prostituées arrivent, il leur donne l'or qu'il a trouvé en disant « Pox on them all », c'est-à-dire foutez-leur, pox, c'est-à-dire la syphilis. Faites-les crever de syphilis, tous. Voilà ce qu'ils méritent. Shakespeare, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Et puis il y a le désespoir de Hamlet, qui est philosophe. Hamlet est un étudiant de philosophie. Tout ça est remarquable je lis et relis. J'ai la chance de pouvoir le lire en anglais. Je lis et relis Shakespeare, qui me semble infiniment plus intéressant que les plaisanteries du genre Nouveau Testament et autres.
Plaisanterie, comme vous y allez, vous écoutez L'Heure Bleue et vous écoutez le choix musical de Patrick de Clercq. Eh bien, pour notre plus grand bonheur, Docteur Doc, c'est Léo Ferré, Pépé.
T'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé, 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 t'avais les yeux comme des lucarnes, Pépé. Comme on en voit dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange pour regarder la nuit des autres, comme on regardait un chimpanzé. J'ai les ferrés, Pépé. Pépé, Pépé, t'avais le cœur comme un tambour, Pépé, de ceux qu'on voile le vendredi saint vers les 3 heures après-midi. Pour regarder Jésus machin souffler sur ses 33 bougies, tandis que toi t'en avais cuite le 7 avril de 68. pépé. Pépé. Je voudrais avoir les mains de la mort, pépé. Et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi. Ça changerait rien là, mon décor. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts.
C'est l'odeur dont je me souviendrai le plus longtemps. Une odeur qui vous prend la gorge, qui imprègne vos vêtements. Une odeur d'aisselle, d'entrejambes, de pieds purulents qui n'ont pas été déchaussés depuis des semaines. Pendant 15 ans de ma vie, je me suis intéressé aux clochards à Paris. Je les ai suivis dans la rue, dans le métro, dans les centres d'hébergement, dans la rue, à l'hôpital. J'ai aidé à les soigner, je pense en avoir soulagé plusieurs. Je sais n'en avoir guéri aucun. La plupart du temps, je les ai haïs. Ils puent. Ils puent la crasse, le mauvais vin, ils puent la haine, la rancœur. Ils se volent entre eux, terrorisent les plus faibles. Ils guettent comme des rats le sommeil des autres pour leur voler une bouteille à moitié vide. Ils violent leurs femmes. Ou bien les prostituent pour un peu d'alcool ou des cigarettes. Et elles, elles protestent même pas, elles ricanent. Avec leur bouche édentée de vieilles sorcières. Mais il n'y a pas eu que la haine. C'est plus compliqué que ça. Sinon, je serais pas resté aussi longtemps auprès d'eux. À les regarder. À les écouter. Ça fait 20 ans maintenant que je les ai quittés. Les souvenirs se bousculent. Les morts, les vivants... Les morts vivants. Tous ceux que j'ai croisés le temps d'un mot, d'un comprimé, d'un pansement, d'un repas chaud. Et puis Raymond. Raymond. Sa bouille toute ronde et son gros pif de Raymond.
Merci. Merci. François Cottrel, d'avoir interprété Patrick Declercq, qui est en face de vous. C'est très troublant pour moi qui suis dans le studio, entre vous deux physiquement, parce que vous vous ressemblez aussi physiquement. En tout cas, en ce moment même, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, vous interprétez seul en scène un extrait de ce livre qui avait été un coup de tonnerre, qui avait été publié dans la collection de Jean Mallory, Terre humaine, et qui s'intitule « Les naufragés avec les clochards de Paris ». Ça avait été un coup de tonnerre pour différentes raisons. Patrick Declercq tout à l'heure a dit à quel point il s'était impliqué dans cette histoire de compréhension, de proximité, de limite de l'humain. Vous avez travaillé, Patrick Declercq, pendant plus de 15 ans avec les naufragés. Et vous, François Cottrel, quand vous avez lu pour la première fois ce texte, qui est réédité, en même temps disponible en livre de poche, qu'avez-vous ressenti ?
Ben, vous l'avez dit, un coup de tonnerre et un coup de poing au ventre. Hein. Je l'ai lu. Ben, je crois que d'ailleurs que j'avais entendu Patrick Declercq sur France Inter, si mes souvenirs sont bons, juste avant, enfin, au moment de la parution. Et ce coup de poing, il est resté quelque part en moi, mais vraiment profondément marqué. Alors pourquoi ? On pourrait en parler, on pourrait chercher profondément, faire un peu de psychanalyse, mais bon, peu importe.
Attention, c'est difficile avec lui, hein. Il est sniper.
Non, je n'y risquerai pas.
Mais très bien élevé.
Et voilà, et ce bouquin est resté longtemps dans ma bibliothèque, bien placé, et puis l'occasion a fait, ça c'est les miracles de la vie, l'occasion a fait que j'ai eu l'opportunité de le présenter à Emmanuel Mérieux et et les choses se sont faites. Voilà, c'est devenu un spectacle.
Alors, c'est un spectacle, c'est plutôt un moment de vie, un moment d'intensité et de compréhension de celles et ceux qu'on ne veut pas voir dans l'espace public. J'avoue que pour préparer cette émission, j'ai relu, parce que c'est un livre addictif, Les Naufragés, et que à chaque fois que je sors dans la rue, je les vois de nouveau, grâce à votre livre, Patrick de Clercq. Parce que cette invisibilité de ceux que vous appelez les naufragés, qu'on appelle maintenant les sans-abri, les SDF, des dénominations successives se sont accumulées, mais la même détresse reste entière, elle ne cesse d'augmenter depuis que vous avez commencé vos recherches en 2001. Alors reprenons peut-être le commencement de cette aventure qui est une aventure aussi philosophique qu'engagée sur le plan social. Pourquoi ?
Parce que lorsque, revenant des États-Unis, mon père voyageait beaucoup. Nous avons été, mon oncle était mercenaire katangais, un garçon sportif, qui, lorsqu'il est rentré désarmé d'ailleurs par les forces des Nations Unies, mon père est allé chercher à l'aéroport le matin, j'ai pas encore parti à l'école, j'avais 7-8 ans, il est rentré, il a enlevé son béret de mercenaire et il l'a mis sur ma tête. C'est symbolique de dire maintenant c'est à toi, mon garçon. Ce sont des choses qui marquent. Plus tard, mon papa, qui voulait absolument montrer que lui aussi était un homme qui avait le sens de l'humour autant que du sport, nous a emmené au Congo où il a vraiment failli être tué et où j'ai vu entre autres une femme soi-disant sorcière à laquelle on avait coupé la main à la machette et puis ensuite aller se battre en agitant son bras ensanglanté, etc. Et un autre homme battu à mort par l'armée congolaise et qui tombait en disant j'ai soif, et il était battu à coups de crosse, et finalement le lendemain il y avait des panneaux dans le petit village où on était qui parlaient de lui, Joseph Mengele, mort de soif. Ce sont des choses qui marquent un enfant, qui posent des questions. Je ne crois pas à la normalité, même tout jeune je ne croyais pas à la normalité, donc je voulais en savoir plus, et je me sens, si la chose était possible, je demanderais aux Nations Unies ou que sais-je, d'être apatride, je demanderais immédiatement un statut d'apatride. Je n'appartiens à nulle part, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les limites, c'est de voir les souffrances, c'est de voir les choses dont la normalité, cette pseudo-normalité, fait comme si ça n'existe pas. Mais ils sont là, ils souffrent, ils meurent, littéralement sous nos fenêtres. C'est terrible. Et en même temps, j'ai pour eux une admiration profonde. C'est que, alors, eux sont des survivants, c'est-à-dire, c'est épuisant d'être à la rue, absolument épuisant. Et certains endurent cela pendant des années. Jusqu'à ce que, bien entendu, finalement, il y a une sorte d'implosion. Et ils meurent assez rapidement. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il n'y a pas d'excuse. C'est une souffrance pérenne. Et pourtant, ils continuent. Je les admire énormément.
Vous les admirez, Patrick de Clercq, mais pour autant, vous n'en faites pas le panégyrique. Votre livre est extrêmement dur envers leurs attitudes, leur manière de survivre, leur manière de se harceler entre eux, leur absence de commisération et même de solidarité entre eux. Vous avez vécu avec eux. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez évoqué cette maison de Nanterre qui était le lieu où, après les bus, la nuit qui traversait Paris et aussi les grandes villes, en tout cas, c'était à Nanterre que les SDF de Paris passaient la nuit dans des conditions extrêmement difficiles et extrêmement violentes. Vous soulignez beaucoup cette... C'est toujours le cas, mais alors, vous avez continué l'aventure parce que vous êtes un homme de conviction, on s'en est rendu compte depuis le début de cette émission. Vous avez publié un autre livre sur les SDF qui s'intitule « Le sang nouveau est arrivé ». À la fin de cet ouvrage, qui est un ouvrage philosophique, un ouvrage de colère politique aussi, contre l'absence de considération des tutelles politique sur cet aspect douloureux et structurel de notre société. On a l'impression qu'on se fait aux déshérités, qu'on se fait à cette situation absolument impensable et inacceptable des sans-logement. J'ai devant moi les chiffres de l'abbé Pierre, j'ai devant moi aussi des chiffres qui montrent que l'augmentation des SDF ne cesse d'augmenter aujourd'hui en 2019, mais dans la postface de ce livre, Le sang nouveau est arrivé, vous écrivez ceci, Patrick de Clercq. Vous dites, devant la pérennité d'un système d'aide aux SDF imbéciles et foncièrement sadiques, je continue à me révolter. Alors que faire ? Le système est-il toujours aussi sadique et imbécile ?
Je pense que l'humanité est sadique et imbécile. Simplement, les masques changent, les casquettes changent. Mais Homo sapiens est mal conçu. Que ce soit un peu de droite ou un peu de gauche ou un peu ceci ou un peu cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense à... c'était Jospin, il y a des années, qui disait... qui était, je pense, candidat présidentiel et qui se donnait pour objectif zéro SDF, ce qui en soi ne veut rien dire. Ils vont où? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Une autre. J'ai vu récemment qu'une autre dame de droit de l'Amérique, je ne me souviens plus de son nom, Valérie Pécresse, réalisait qu'il y avait des gens dans la rue. Oui. C'est les femmes de droite que je n'aime pas. Mais C'est ce renouveau perpétuel, cette tarte à la crème qui revient est intolérable. Et il y a là quelque chose qui est fondamental. Et je pense que là, on dépasse la question politique. C'est la façon dont la société marche. Il y a maintenant plus de 200 000 SDF en France. 200 000, à minima. Ça veut dire que depuis 2001, le chiffre a doublé. Sans parler des Syriens, sans parler d'eux, etc., etc. Tout ça est... absolument atroce. Je pense qu'il y a quand même une fonction que la société fait jouer à ces gens, qui est de dire aux citoyens, camarades, ne faites pas l'andouille, parce que c'est comme ça que vous allez finir. Soyez respectueux, soyez contents d'avoir un travail aussi stupide et répétitif soit-il, continuez à être des chômeurs bien propres, poli et bien élevé, parce que l'alternative, c'est ça. Et puis alors, il y a bien entendu là le cirque périodique de la charité spectacle. Rien n'est aussi profitable qu'un malheureux qui meurt gelé, si possible, à l'entrée de Notre-Dame.
Il suffit de traverser 24, la rue pour trouver un décembre, boulot, c'est ça que vous voulez dire, Patrick de Clercq.
C'est ça, mais sauf qu'il n'y a pas.
C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui de plus en plus instrumentalise la peur du sans-abri pour contraindre le plus de personnes possible à faire des métiers absolument qui n'ont pas forcément envie de faire.
Absolument. Et la société refuse de remplir les conditions de son propre contrat social. C'est-à-dire que c'est fondamentalement le simulacre de la normalité où l'abandon, la dégradation et la mort. C'est d'une violence infinie.
Alors, dans la mise en scène d'Emmanuel Mérieux, en ce moment même au Théâtre des Bouffes du Nord, vous êtes seul en scène, François Cotterêle.
Tout à fait seul, je suis accompagné de Stéphane Balmino, pardonnez-moi de vous couper.
Oui, mais c'est votre parole qui porte, c'est votre parole qui nous guide. Et c'est dans ce décor de fin du monde et de post-apocalypse que nous pouvons entendre la voix de Patrick de Clercq se déployer. Pourquoi avez-vous souhaité proposer à un metteur en scène comme Emmanuel Mérieux, qui est soucieux de transmettre des textes poétiques tout en étant politique? Je rappelle que après la traversée Patrick de Clercq, dans la même soirée, on peut découvrir le texte de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge. Mais il y a eu d'autres textes qu'a porté sur les plateaux de théâtre depuis maintenant une bonne dizaine d'années Emmanuel Mérieux. Pourquoi avez-vous souhaité transmettre cette parole-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle recèle de mystérieux, de politique? Est-ce que c'est politique ou est-ce que C'est comme une bouteille à la mer et un message d'humanité.
Vous savez, moi, c'est beaucoup plus impulsif que ça. Hein. J'ai rencontré Emmanuel Mérieux à l'occasion d'un stage de comédien. Je voulais absolument travailler avec lui. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du théâtre de cette façon. Et je voulais absolument le rencontrer. Il y a eu l'occasion d'un stage professionnel où il était censé partager avec nous sa façon de faire une adaptation d'œuvres non théâtrales pour en faire des récits et de le porter en solo, voilà, comme il fait depuis plus d'une dizaine d'années. Et il nous a proposé de venir avec un livre qui nous tenait à cœur. J'ai regardé ma bibliothèque, ben, c'est Les Naufragés qui m'ont sauté aux yeux. Et comme par miracle ou pas, ça correspondait tout à fait à ce qui intéresse Emmanuel, qui donne la parole, comme il dit, au dernier de cordée.
Ouais. Dernier de cordée, c'est une belle expression, François Cottrel, pour exprimer le rapport avec le texte de Patrick de Clercq, qui conclut ainsi cet ouvrage, Les Naufragés, sous-titre avec les clochards de Paris. Où vous dites, parce que c'est pas ça, c'est pas du tout un livre de commisération, c'est pas un livre d'enregistrement d'un réel qui est aux limites du fonctionnement de la société néolibérale. C'est un livre, en tout cas pour moi, mais je suis pas la seule, c'est un livre philosophique, c'est un livre politique qui pose les questions des fondements de notre société, mais qui pose aussi la question donc de qui je suis pour essayer de comprendre un milieu qui n'est pas le mien, et un milieu que je vais quitter après l'avoir observé. Et vous dites ceci en postface, Patrick de Clercq. Après tout, ce ne sont peut-être pas les clochards qui posent question, mais plus simplement l'auteur qui serait un peu bizarre.
Oui, c'est un échange de lettres avec Jean Mallory. Je ne crois pas à la normalité et à la mienne encore moins que les autres. Goethe, pas n'importe qui, a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'un crime dont il n'aurait pu commettre lui-même. Il y a ce vertige. On ne peut pas être analyste sans mesurer que effectivement tout est possible. Avant qu'ils interviennent sur mon crâne chéri, où le risque de ne pas survivre n'était pas négligeable, j'ai absolument tenu à aller visiter Auschwitz en février. Mais j'ai été opéré en mars. Je voulais rendre hommage. Je ne voulais pas risquer de partir sans aller à l'endroit qui est pour moi le degré zéro, non seulement de l'humanité, mais la démonstration qu'il n'y a pas de progrès historique. En un sens, je pense avec Schopenhauer que l'histoire n'existe pas. Il y a des technologies croissantes, mais la pulsion, l'être, l'animal que nous sommes, l'animal taré, j'insiste, reste le même. Et donc je voulais aller voir Auschwitz et aussi pour, en quelque sorte, pour essayer de voir si j'avais raison de penser tout le bien que je pense de mes frères humains. La réponse était oui.
Et le cimetière de Nanterre est pas mal aussi.
Et le cimetière de Nanterre n'est pas mal non plus. Mmh. C'est un lieu atroce qui tombe en désuétude, où les choses s'étiolent, se dégradent.
Ben, merci infiniment à vous deux. Je rappelle que votre livre « Les Naufragés » est disponible en livre de poche. Et je rappelle, François Cottrel, qu'on peut vous écouter dans l'adaptation, dans une mise en scène d'Emmanuel Mérieux, dire le texte de Patrick de Clercq, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord, et ce jusqu'au 2 octobre. Et pour vous deux, et pour nous toutes, et pour nous tous, on va écouter Arnaud.
On se promène comme tous les soirs. Rien. On va de bar en bar, ça rime à rien. comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Spéliade allume la digue comme tous les soirs. Oh, couleur nostalgie, oh, couleur désespoir. Il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Chèvre folle dans les bistrots, on pense plus, on se console. Il est trop tard, comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir.
À Stéphane Boja qui est à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli, Louise Douillet et à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Lilian Alhomme qui a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez bien évidemment rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour la suite de son Very Very Good Trip.